Quel plaisir de vous retrouver et de vous retrouver notamment pour ce temps de culte, le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie, un espace pour accueillir et pour aimer, un espace pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, un temps de paix selon l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce que nous célébrons. Et pour nous placer résolument devant l'Éternel, je vous invite à vous lever pour chanter le premier répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début du psautier français. Bénissons Dieu le seul Seigneur. Oui, Éternel, nous voulons te louer, nous te rendons grâce, car malgré nos peines, malgré nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu qui ne se détourne pas de nous. Pour ce monde si beau et si fragile, pour la vie si belle et si menacée, pour cet immense univers où peut s'épanouir un règne de paix, nous te louons. Pour ton évangile, pour ta volonté de rendre le monde heureux à travers nous, pour la promesse de cette vie éternelle, un temps d'une qualité infinie, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer, et parce que nous pouvons nous aimer au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie. Éternel notre Dieu, nous te louons. Amen. Et poursuivons notre louange par le chant du psaume 72. Nous chanterons les strophes 1 et 2 du psaume 72. Ce que les textes bibliques nomment la Torah, et que nous traduisons souvent la loi, n'est pas à comprendre nécessairement comme une liste de prescriptions auxquelles il faudrait se soumettre. La Torah signifie aussi l'instruction. C'est la manière par laquelle les rédacteurs bibliques se sont efforcés de nous donner les mots qui permettent d'aiguiser notre sensibilité au réel, de forger notre regard pour qu'il soit aussi empreint d'amour que possible. Eh bien, dans le livre du Deutéronome, voici une expression de la volonté de Dieu, voici une manière de construire notre regard, notre rapport à l'autre, notre rapport au monde. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « Mon père était un Araméen dépérissant. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et ils nous opprimèrent. Ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre voix. Il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des signes, des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. Éternel, notre Dieu, nous voulons nous présenter devant toi en vérité. Et à défaut de présenter pour l'heure les prémices des fruits du sol, nous voulons te présenter nos élans et nos hésitations, nos réussites et nos échecs, notre éclat et toutes nos zones d'ombre, nos enthousiasmes et nos sidérations. Et nous voulons demander pardon. Nous ne savons pas forcément très bien à qui demander pardon. Alors c'est à toi que nous adressons cette prière, cette demande. Pardon pour ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Pardon pour ce que nous aurions dû dire et n'avons pas dit. Pardon pour ce que nous aurions dû penser et n'avons pas pensé. Fais-nous grâce, Dieu bienveillant. Amen. Ces versets que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe peuvent être un élément de réponse à notre prière. Nous y lisons ceci. C'est l'Éternel qui s'adresse au prophète et par son intermédiaire à l'ensemble du peuple. Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités, mais moi, j'efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et tes péchés, je ne m'en souviens plus, oracle de l'Éternel. Voici, frères et sœurs, quelques versets qui disent que la foi chrétienne ne consiste pas à s'abîmer dans la faute, à s'abîmer dans l'humiliation, mais à tenir compte de notre histoire, de toute notre histoire, pour ensuite la présenter devant l'Éternel et pouvoir recevoir quelques éléments qui nous permettent de la porter à sa plénitude, de pouvoir nous orienter vers un horizon marqué par le bonheur. Voilà ce que le prophète Ésaïe essaie de nous transmettre. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Et voici une manière d'exprimer notre foi. Dieu est amour. Par amour, Dieu, notre Père, crée le monde. Son Fils, Jésus-Christ, a vécu son existence de telle manière que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisan de vérité et de pardon, parmi nos contemporains, comme artisan de justice et de paix. Dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toute chose, Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place, frères et sœurs, pour entendre un passage de la seconde lettre de l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe. Voici ce qu'il leur dit, c'est au chapitre 5 à partir du verset 11. Connaissant donc le respect du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint, il nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prenons notre recueil de chants, louanges et prières pour y chanter le cantique 178, qu'aujourd'hui toute la terre s'égaye au nom du Seigneur. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, sous une autre lumière. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel, comme de véritables enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, je pense ne pas être le seul à penser qu'il aurait mieux valu ne pas rentrer de vacances, consulter les informations et s'intéresser à la marche du monde. On est tellement mieux dans les Cévennes sans réseau. Horreur et carnage à tous les étages. Où est donc l'innocence que l'on trouve pendant les vacances? Où sont les visions bucoliques d'un monde apaisé, jouissant de tous les bienfaits dont recèle notre planète? Où sont donc le calme, le luxe et la volupté de nos voyages? Le Christ nous a-t-il réconciliés avec Dieu, selon les termes de l'apôtre Paul dans cet épître aux Corinthiens? La dette qui courait entre l'humanité et Dieu n'a-t-elle pas été réglée une fois pour toutes, selon l'apôtre Paul qui écrit que nos offenses ne nous ont pas été imputées? Quant au ministère de la réconciliation, dont il est fait trois fois mention dans ce passage, est-il normal qu'il reste ainsi sans effet? Bien souvent, lire les textes bibliques nous permet de mieux comprendre notre monde, de mieux comprendre ce qui nous arrive, de mieux nous comprendre nous-mêmes. Mais il ne faut pas dédaigner tous ces moments précieux où notre vie, l'actualité, les faits saillants du quotidien nous aident à mieux comprendre la Bible, à vrai dire, à mieux saisir son propos, son intention, ce qu'elle a à nous révéler, ou au contraire, ce qui ne la concerne pas, ce dont elle n'a aucune science. Et je crois que c'est le cas ici, précisément. Dans un premier temps, ce n'est pas tant la Bible qui nous instruit que la marche du monde qui nous aide à mieux comprendre ce que le texte biblique peut nous offrir en termes de méditation, de réflexion et d'enseignement. Ce que ce texte dit au sujet du rétablissement de l'homme dans sa vocation originelle, débarrassé du péché, pour employer le vocabulaire de la Bible. Ce passage biblique laisse entendre qu'il y aurait une sorte de contentieux entre Dieu et les hommes, et que ce contentieux a été soldé par la mort de Jésus-Christ. Du moins, est-ce ainsi que l'ont compris nombre de théologiens chrétiens au fil des siècles, Anselme de Canterbury au premier rang de ceux-ci, et est-ce ainsi que beaucoup le comprennent encore aujourd'hui, allant même jusqu'à dire qu'il fallait que le Christ meure ainsi pour que nous soyons pardonnés? Cela signifie qu'une transaction aurait été nécessaire pour mettre fin à l'ardoise contractée par des générations de pécheurs, sous-entendu des gens malfaisants, fautifs, coupables de se transmettre cette maladie génétique que les textes bibliques nomment le péché. Et par le sacrifice parfait de Jésus, parfait lui-même, être incomparable, mis à mort sur une croix, l'humanité effacée, l'ardoise, selon cette théorie. Si, pour ma part, je ne suis pas convaincu par cette théorie, du moins par le fait qu'elle soit fidèle à l'Évangile, je suis encore moins convaincu de sa pertinence et de son caractère véridique, notamment au regard de l'histoire, et plus encore de l'actualité. Et c'est là que faire intervenir ce que nous voyons, ce que nous observons est particulièrement utile pour l'élaboration de notre propre théologie, qui ne devrait jamais se faire en niant ce que nous expérimentons nous-mêmes. Je passe rapidement sur le mésusage qui en est fait par les adeptes de cette théorie de la théologie sacrificielle, qui, tout en affirmant que la dette a été réglée une fois pour toutes, que nous ne vivons plus sous l'emprise du péché grâce au sacrifice expiatoire de Jésus, culpabilise à outrance et en permanence, érige des polices des mœurs, de la pensée, et non finalement que le péché à la bouche. Curieuse manière de témoigner que le péché ne serait plus. Je préfère m'attarder sur le fait que cet événement, la mort de Jésus, n'a pas eu un retentissement universel. Je veux dire par là, et c'est ce que je disais en ouverture de mon propos, l'état de notre monde met en évidence que nous attendons toujours la réconciliation universelle. qu'il n'a pas suffi que Jésus meure sur une croix pour que tout s'arrange immédiatement. L'heure est plutôt au déchirement mondial qu'à la réconciliation. Autrement dit, il est difficile tout de même de dire qu'en mourant, Jésus a inauguré un règne de paix universelle, surgi subitement, de manière surnaturelle et absolue. Je crois que nous pouvons tous nous accorder sur le fait que la mort de Jésus n'a pas eu un effet direct sur l'ensemble de la création, comme voudraient nous le faire croire les essentialistes qui prennent les lettres de Paul au pied de la lettre, tels des décrets d'application divins qui feraient ce qu'ils disent. Vouloir nous faire croire qu'une transaction a eu lieu entre notre sphère humaine et la sphère surnaturelle de Dieu, pour mettre un terme au règne du péché, est assez douteux au vu des résultats que nous observons. Et notre observation compte. Notre expérience compte. Au même titre que les observations et les expériences des rédacteurs de la Bible comptaient à leur époque. Elles comptaient au point que nous leur accordons cette autorité qui en fait un texte biblique. Alors, si nous décidons que nous ne pouvons pas en rester au stade de la théologie sacrificielle, nous devons chercher à comprendre ce que l'apôtre désignait par ce ministère de la réconciliation, pour faire ensuite le chemin inverse, éclairer notre vie de ce qui sera alors le message lumineux de nos archives bibliques. Entendons à nouveau ce que l'apôtre Paul écrit. Il parle de la connaissance non charnelle du Christ. Il parle de sa parole de réconciliation. Il parle de nouvelle création. Il parle des choses devenues nouvelles. Il est question de Dieu en Christ et de Christ comme un homme, comme nous. Ce qui, par transitivité, signifie que Dieu est en nous. Eh bien, ces quelques éléments distillés par l'apôtre Paul dans ce passage biblique nous aident à mieux comprendre peut-être ce que signifie Christ déjà pour commencer. S'agissant de Jésus qu'il nomme par ailleurs, il ne considère pas que Jésus de Nazareth soit un être supranaturel doté d'une nature spécifique. Tout au contraire, pour Paul, dire que Jésus est Christ, c'est attester qu'il est pleinement humain. La nature de Jésus est radicale en ce sens qu'elle est radicalement humaine. Jésus est humain comme nous caressons parfois l'espoir de l'être nous-mêmes. Cette humanité ne se caractérise pas par la chair qui peut tellement varier d'une personne à l'autre, que ce soit par la couleur, par la forme, par le volume, par l'amplitude. Cette humanité se caractérise par sa profondeur, ce que Paul nomme Dieu. La profondeur de l'être, Christ, était en Jésus, et Jésus a témoigné de ce qu'est être profondément humain. Mieux que cela, Jésus a révélé qu'il était possible d'être profondément humain, sans se renier, sans fuir ses responsabilités, sans transiger en fonction de l'opinion du moment, sans tergiverser quand certains hésitent. Jésus fut Christ en ce qu'il fut humain, selon la Torah, selon le portrait qu'en tracent les textes bibliques. Et il fut progressivement conscient de cela, par des interactions successives avec celles et ceux qu'il a rencontrés. Et ce point est important. Et c'est là qu'il est utile de retraverser aussi les récits des évangiles. Si les évangiles ne disent pas grand-chose de l'enfance de Jésus, à part les évangiles apocryphes, qui le dépeignent justement comme un être surnaturel dès le départ, capable de sidérer, capable de méduser les jeunes de son âge dès qu'il est en désaccord avec, en les transformant en pierre, en desséchant les arbres, etc. Eh bien, les évangiles commencent à raconter la vie de Jésus principalement au début de son ministère adulte, avec sa rencontre avec Jean le Baptiste, qui a les premières paroles de révélation, qui dit quelque chose de la vocation de Jésus. Jésus qui entend à ce moment-là ce qu'il est appelé à être. Tout un tas de rencontres permettront à Jésus de mieux prendre conscience de sa véritable nature profonde, son humanisme profond. Et je pense tout particulièrement à cette femme cananéenne, cette étrangère, qui lui fait prendre conscience que sa mission ne s'arrête pas aux frontières d'Israël, que la profondeur de notre humanité ne se limite pas au clan dans lequel nous sommes nés ou à la communauté dans laquelle nous avons été élevés. Jésus, effectivement, ne sera pas simplement fils d'Israël, mais fils de l'homme, comme le rappellent les évangiles, fils d'Adam, pour reprendre le terme hébreu. Et c'est en ce sens qu'il est véritablement Christ. Comme le dira par ailleurs l'apôtre Paul, il y a une sorte de corrélation entre Adam et le Christ Jésus, parce que tous les deux sont capables de pouvoir faire valoir leur humanité entière. Nous, nous sommes toujours un peu entravés, nous sommes toujours un peu en sous-régime. Nous y reviendrons. Les interactions de Jésus avec ses disciples sont également des occasions pour lui de se révéler, de se découvrir, y compris lorsqu'il leur demande « Et vous ?»« Qui dites-vous que je suis ?» qui est une question à la fois rhétorique, parce qu'on peut imaginer que Jésus est quand même déjà un peu au courant, mais qui est aussi porteuse de sens, car ce que disent les disciples ne sera pas sans effet sur ce que Jésus peut ensuite prendre pour lui-même. Lui qui est à l'écoute des autres, comme peu savent l'être. Plus Jésus rencontre les individus qui croisent son regard, plus il s'humanise, plus il est Christ, au point que sur la croix, un centurion romain dira de lui qu'il était vraiment fils de Dieu, profondément humain. Dire que le Christ Jésus nous a réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas semblable à cette expression que l'on entend souvent lors des mariages, lorsque des amoureux, manifestement amoureux, peuvent nous réconcilier avec la vie de couple, ou des croyants généreux qui pensent leur foi et qui nous réconcilient avec la religion. Le Christ Jésus nous a réconciliés avec Dieu, avec la profondeur de notre humanité, en nous révélant qu'il était effectivement possible de vivre selon cette dynamique de l'Évangile, selon cette dynamique de l'amour. Oui, finalement, il est encore possible d'avoir confiance en l'être humain. Il est encore possible d'avoir foi en l'humanité, parce que Jésus a montré que l'humanité était possible, qu'elle n'était pas simplement une chimère, qu'elle n'était pas simplement une sorte de belle histoire pour nous faire tenir encore un petit peu, pour que nous ne désespérions pas trop vite. Le Christ Jésus nous a réconciliés avec Dieu, avec la profondeur de notre humanité, en nous révélant que cela était vraiment possible pour chacun d'entre nous. Vivre selon cet amour qui nous presse, dit Paul, cet amour qui anime tous les disciples de Jésus, qu'ils se reconnaissent comme tels ou non. Car les disciples de Jésus sont les fils d'hommes, qui sont eux aussi ambassadeurs d'une vie menée au grand air de la liberté des enfants de Dieu. Cette liberté qui ne s'abîme ni dans les intérêts particuliers, ni dans les peurs ancestrales. Le Christ nous a réconciliés avec l'humanité en nous réconciliant nous-mêmes, en nous faisant prendre conscience que nous étions nous-mêmes capables d'être humains, que nous n'étions pas obligés d'être un loup parmi les hommes pour pouvoir survivre. Si le Christ a réconcilié ce que nous pourrions appeler une sorte de faille intérieure, cet écart si pénible entre nos intentions et ce que nous faisons, entre notre volonté et les effets, entre ce que nous pourrions être et ce que nous sommes effectivement à un moment donné. Le Christ a également réconcilié l'humanité au sens de la réconciliation entre les individus. Il a redonné confiance en nous, et ce faisant, il nous a donné confiance en l'autre également. En nous faisant prendre conscience que nous n'étions pas obligés d'endosser les habits usés du barbare pour pouvoir exister face à l'autre, que nous considérerions inévitablement comme une menace, comme celui qui ne se contente pas de nous pomper l'oxygène, mais qui peut porter atteinte à notre intégrité, à notre identité. Eh bien, le Christ Jésus nous a tous réconciliés avec Dieu, abolissant les clivages, réduisant les distances culturelles, transgressant les conventions établies autrefois, ces conventions qui permettent de distinguer ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Le Christ Jésus nous a réconciliés de telle manière que nous participions tous d'une même humanité portée à son incandescence. Une humanité sans astérisques, ces fameux astérisques qui établiraient des exceptions, des dérogations, parce que certains ne seraient pas aussi humains que nous, ou que certains, on pourrait ne pas s'en préoccuper, on pourrait refuser d'en entendre parler. Cette réconciliation, si elle fonde la confiance en soi, à la suite de ce que Jésus a vécu, vécu librement ce qu'il avait à vivre, comme un être souverainement libre, elle fonde aussi la confiance en autrui. Parce que si je suis capable d'être profondément humain, alors cela est vrai pour l'autre aussi. Et au lieu d'être une menace, il se pourrait que l'autre soit de ceux qui permettent justement ces interactions positives. Et qu'au lieu d'être une menace, ce soit quelqu'un qui soit susceptible de me rendre encore plus humain, qui permette de révéler chez moi une humanité que je ne soupçonnais même plus. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une condition commune qu'il faudrait être frère parce que nous habitons tous le même espace-temps. C'est la reconnaissance de la véritable valeur de l'autre. Ce n'est pas simplement l'histoire de la tolérance, il faut tolérer l'autre au nom des bons sentiments. C'est reconnaître en l'autre sa véritable nature et sa véritable capacité à être source de bonheur pour moi-même, à être en capacité d'établir des interactions positives avec moi-même. En Jésus-Christ, c'est la rédemption de l'humanisme qui se joue, et pas simplement de l'humanité. Cette capacité à rendre l'autre plus humain. L'autre, celui qui croise mon regard, celui que je n'ai pas choisi, est ressuscité en tant qu'être humain à part entière dans la perspective de Paul. Plus personne n'est considéré comme un être de seconde zone. Personne n'est réduit à n'être que ceci ou que cela. Un sans-papier, un réfugié, un indigène, un immigré de troisième génération. Plus personne n'est regardé selon son orientation sexuelle. Plus personne n'est regardé selon sa religion. Plus personne n'est regardé selon la nature de son sexe, car il n'y a plus ni homme ni femme dans la réconciliation opérée par Jésus-Christ. Parce que la question, c'est la profondeur de l'être, et pas ce qui est à la surface des choses. Comme le rappelle Paul, ce n'est pas selon la chair que nous connaissons, ce n'est pas à la surface des choses que nous pouvons nous faire une idée de ce qu'est celui que nous croisons. Celui-ci est mon frère, celle-là est ma sœur, qui s'inscrit dans la volonté du Père Céleste, dit Jésus, qui a trouvé sa place au sein d'une famille qui ne connaît ni le sang, ni la langue, ni la religion, pour dire l'identité. Le Christ Jésus a réconcilié notre humanité en la sauvant d'une fragmentation mortifère. C'est comme lorsque nous sommes divisés en nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus faibles, beaucoup plus fragiles. Lorsque l'unité de notre être est restaurée, alors nous sommes capables d'affronter la vie, nous sommes capables d'aller de l'avant. Nous avons un caractère dépressif beaucoup moins affirmé et un caractère positif beaucoup plus fort. Eh bien, cela est vrai au sein d'une communauté. Lorsqu'une communauté nationale, lorsqu'une communauté internationale est fragmentée, alors elle est fragile, elle se menace elle-même, elle se vide de sa substance par l'intérieur. Et c'est cela que nous pouvons célébrer de mille manières, aussi bien de manière symbolique, par le culte, que par toute une variété d'actes concrets dans le cadre de notre vie quotidienne, des actions concrètes qui manifestent, qui incarnent cette rédemption opérée par le Christ. Comme Jésus nous l'a révélé, comme il l'a incarné, nous sommes capables d'être humains, pour nous-mêmes et pour les autres. Et cela est justice de Dieu. Amen. Le cantique 258, Tu me veux à ton service, sera l'occasion de chanter cette invitation aux interactions positives. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter ce cantique. Prenons place pour quelques informations à partager dans notre calendrier, reprise en douceur pour éviter les tendinites, puisque cette semaine, le seul véritable rendez-vous ecclésial, ce sera jeudi à 19h30 pour la première répétition du chœur de l'oratoire. C'est le moment, si vous désirez participer aux travaux du chœur, aussi bien pour les répétitions que pour les concerts et l'accompagnement du culte, c'est l'occasion de rejoindre le chœur dirigé par Fabien Aubé. Il vous suffit de vous rendre à la maison presbytérale, aux 4 rue de l'Oratoire, au 2e étage, et vous serez les bienvenus. Et donc, dimanche prochain, notre culte dominical, 10h30, présidé par Marc, et ce sera Jean-Dominique à l'orgue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Aurélien. Ce sera également la rentrée de l'éducation biblique. Donc, si vous avez un enfant, un petit enfant, un arrière-petit enfant, un voisin, une connaissance, un ami Facebook qui a entre 4 ans et 15 ans, c'est ici à 10h30 qu'il devra être dimanche prochain. Pour les 4-7 ans, c'est plus exactement en face au rez-de-chaussée à gauche qu'ils seront accueillis pour l'éveil à la foi pendant le temps du culte. En revanche, pour les plus âgés, ceux qui ont entre 8 et 15 ans, c'est une journée complète jusqu'à 16h, et donc il s'agit de prévoir un pique-nique. Et le retour se fait à 16h en face salle Mono, aux 4 rue de l'Oratoire donc. Je vous rappelle que chaque dimanche, une garderie est assurée également pendant le temps du culte, et donc sentez-vous libre de pouvoir confier aux personnes qui partage cette responsabilité, votre enfant, pour pouvoir lui permettre de bénéficier de ce temps de culte en étant bien accompagné. Autrement, peut-être pouvons-nous faire appel aux bonnes volontés pour les journées du patrimoine. Vous savez que le 19 et 20 septembre, les journées du patrimoine sont l'occasion de faire découvrir les richesses de notre pays. L'oratoire prend sa part. Et donc nous avons besoin de paroissiens pour pouvoir accueillir celles et ceux qui sont curieux de connaître l'histoire de ce bâtiment, de savoir ce qui s'y passe, de connaître la communauté qui y vit. Et donc peut-être le mieux est-il de prendre contact avec notre président André Ducrot ou avec Isabelle Santesteban pour vous proposer pour être là une heure, deux heures pendant ce week-end. Le samedi, justement, à 18h, aura lieu un concert spirituel autour d'une cantate de Bach. Vous pouvez d'ores et déjà mettre cela sur vos tablettes. Pour les nouveaux venus, vous avez toutes les informations utiles à l'entrée du temple, aussi bien le journal paroissial que nous appelons la feuille rose, qui vous donne les coordonnées, le calendrier des activités. De nombreux documents vous donnent des renseignements sur, justement, les différents groupes qui existent. Vous avez des questions, bien entendu, les pasteurs sont à votre disposition, nous pourrons prendre rendez-vous pendant la semaine, et le texte de la prédication est toujours déposé près des cantiques à la fin du culte, ce qui permet de revenir sur les choses qui auraient été mal prononcées ou pouvoir vérifier que vous êtes vraiment en désaccord total avec ce qui a été dit, et d'en faire profiter le prédicateur. Le contrat qui n'est donc plus tacite étant qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec le prédicateur, ce qui est vrai pour tous les prédicateurs. Bien, c'est maintenant le moment de l'offrande, c'est le moment de faire valoir cette phrase du Deutéronome qui disait qu'il s'agit d'apporter les prémices. Les prémices, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus savoureux. Donc, ne vous contentez pas simplement du détail, mais offrez l'essentiel à l'Église pour qu'elle puisse poursuivre ses missions d'accueil. nous nous unissons dans la prière. Éternel, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise. Afin que nous pardonnions les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit, le plus fragile d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, les prisonniers, les isolés, les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre. Mais nous voulons te prier pour tous ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Et nous voulons te prier pour ceux qui n'ont pas de nom, pour ceux dont nous ne connaissons même pas le visage, mais dont la plainte gagne nos oreilles, notre cœur. Nous ne voulons pas pour autant oublier ceux qui nous sont chers, ceux qui sont à portée de regard, à portée de main, à portée de souffle. Nous ne voulons pas non plus oublier ceux que nous avons du mal à aimer. Tout cela, nous les nommons dans le secret de notre cœur. Nous voulons ardemment prier pour notre pays et pour toutes les nations, pour l'ensemble des responsables, des peuples, tous ceux qui exercent des responsabilités, afin qu'ils procurent la paix, la justice et la liberté. Aide-nous à être de cela. Veille sur ton Église. Fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions, de ses entraves, de ses hésitations, de son conformisme, de ses peurs, de ses suffisances. Donne-lui de chanter tes louanges, de chercher sans cesse la fraternité, de combattre pour la justice. Oui, veuille te servir de nous, Éternel. Nous voici pour accomplir ta volonté, pour ressusciter l'humanisme. Et nous faisons nôtre ces mots que Jésus enseigna autrefois à ses disciples. Nous aussi, nous voulons être disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.